Et voilà. C'est parti. Erev Tov.
Attends.
Tu me vois ?
Sur le YouTube, ça passe pas.
Comment ça se passe pas ?
Non. Ah, ça y est.
Ça y est.
Ça y est, ça y est. C'est tout bon.
C'est tout bon, tout de bon.
T'as une fusée de toutes les couleurs sur la derrière.
Alors, ce n'est pas une fusée, c'est le numéro 7.
Ben oui, on aurait dû voir.
Mais non, mais là, tu ne peux pas le voir parce qu'il est pointé dans l'autre sens.
Oui, non, mais j'ai compris, j'ai compris.
Donc, c'est le numéro 7 parce que ma fille, elle a 7 ans.
À 7 ans.
Voilà. Voilà, voilà. Bon, vous avez vu les personnes. Comme on voulait comprendre ce que vous avez vécu, ils ont tous mis en bidoude.
Oui.
Qu'est-ce qu'on va faire avec ce Seger? Qu'est-ce qu'on va faire? Nounou?
J'ai un deuxième petit-fils qui est fiancé.
Comment ça?
Kekiki, Ben Salel.
Ma! Ah ben ça fait plaisir ça. Bon, la vérité c'est que on était plus, on attendait plus Betzalel que Tsouriel à la base.
Oui, on peut le dire.
Mais bon,
non, ça va, c'est bien. Non,
c'est
non,
super.
Je suis. Voilà. On a Tsouriel sur les rails et Betzalel aussi comme ça. Salut Sylvain.
Mais c'est génial. Kol hakavod.
Non, j'y suis pour rien.
N'en sois pas si sûr.
Ça va,
Sylvain?
Très bien, et toi? Ça va?
Très bien, hein?
Très bien.
Ça va, ouais, hein?
Ça va. Très, très bien.
Bah alors quoi, les Bursins, vous n'avez pas besoin de vous faire vacciner, alors?
Non, pas pour le moment.
Pas pour le moment. Même si on voulait, on ne peut pas. Ils ne veulent pas.
Misrada, il ne veut pas.
Bon.
Misrada ne veut pas nous vacciner.
Moi, j'aurais bien voulu, mais non. Bon. Paris, bon. On est immunisé pour un certain temps.
Bon, bah, c'est bien.
Le gendre qui a eu le corona s'est fait vacciner.
Il a, qui ça il a pas...
Mon gendre.
Ouais.
Il s'est fait vacciner à Tel Aviv, ouais. Sans dire qu'il a eu le corona, parce qu'il n'était pas sûr qu'il avait des éponymes suffisamment.
Ouais, mais il le voit, hein, sur notre tic. Nous, il rentre à Théodazéout, il voit tout de suite qu'on l'a pu. Hein.
Je peux pas, on peut pas le faire.
Tous les jours, il nous téléphonait. Je peux te dire, on peut pas le cacher. Hein. Ouais. Non, on fera une sérologie dans quelques temps, dans un mois, et puis c'est tout.
Ouais, il faut moins d'un. Il faut dans 6 mois. Ça dure à peu près 6-7 mois là, quand tu as eu des. D'après.
Non, d'après pas. Ce... Je le ferai.
Mais quoi? Mais vous aurez quand même votre passeport vert.
Ben, on espère bien.
Je sais pas. Je sais pas cette histoire de passeport vert, ça, ils vont le faire?
Oui.
Ils donnent le passeport vert à la suite de la deuxième injection.
Oui, mais celui qui a pas été vacciné parce qu'il a eu le corona, il aura le passeport quand même?
Oui, non.
Donc,
on n'en sait rien du tout.
On n'en sait rien.
On n'en sait rien du tout. Alors, j'irai sans passeport.
Nounou. C'est comme ça. Tom
Ethan,
oui.
Avant que tu commences,
oui, dis-moi.
Tu peux donner le numéro de téléphone de ta femme.
Ah, je ne l'ai pas donné?
Dis-moi, je l'ai eu.
Ben, ça
054.
Oui.
054 49.
Oui.
63.
Oui.
522.
C'est celui que je
l'ai
donné, Jackie.
Oui,
voilà.
Bon.
Shalom, shalom.
Bonsoir, monsieur le rabbin.
Madame la rabbine, mes hommages.
Ouais, j'ai eu du mal, j'avais pas de son.
Ah ben voilà, ça y est, on t'entend.
Alors un chiour sans son, c'est pas rigolo.
C'est, j'avoue. Quoique, tu peux lire sur mes lèvres.
Oui, ben ça y est, c'est fait.
Bon. Ça va? Bon, j'aime. Alors, Rachem, on profite du dernier jour où les enfants seront à l'école demain.
C'est ça. Profitez.
Voilà. Voilà, voilà. Alors, les amis, ce soir, on va aussi parler de notre paracha de Shemot, évidemment. Mais je voulais d'abord évoquer avec vous un sujet, alors qui pour moi est un sujet actuel, puisque aujourd'hui, alors ça y est, c'est plus, mais aujourd'hui, c'était le Yahrzeit de Ben Yehuda, sérieux ? Ben, je savais pas. Donc, de Ben Yehuda, mais je t'avoue que je suis moins proche de lui que j'étais proche de ma grand-mère. Donc pour moi, ça sera plus le Yahrzeit de ma grand-mère que le Yahrzeit de Ben Yehuda. Tu m'en voudras pas. Et donc, je voulais m'arrêter deux secondes avec vous sur cette notion, justement, de Yahrzeit, Askara, Iloula, toute cette histoire de notre rapport à ceux qui sont partis. Parce que le judaïsme, eh bien, met un poids très important sur le rapport que les vivants entretiennent avec ceux qui sont partis. On va dire que c'est une part très importante dans la vie juive. Et il n'y a qu'à voir, eh bien, l'afflux de gens qui d'habitude ne viennent pas à la synagogue, et je parle particulièrement en Chutz Laaretz, mais même en Israël, de gens qui ne viennent pas d'habitude à la synagogue, mais quand ils ont Kaddish à dire, eh bien, tu les vois à la synagogue. Et c'est évidemment quelque chose qui n'est pas rationnel. Parce que pourquoi est-ce que, tout d'un coup, je pense que mon Kaddish, il va avoir une incidence. Si tu es un religieux et que les rabbins y t'ont dit, et j'entends, mais la personne qui ne vient pas à la Sina, la personne qui ne fait pas Shabbat, la personne qui ne mange pas kasher, qu'est-ce qu'elle s'en fiche de venir une fois par an à la synagogue, elle ne va pas le rater et elle va venir faire Kaddish. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Alors, avant de parler du Kaddish, je voudrais revenir à c'est quoi, Bichlal, cette notion de Askara, Iloula, Yahrzeit. Alors, chez les Ashkenazim, qui c'est qui joue avec une feuille? Je ne sais pas. Alors, chez les Ashkenazim, c'est pas compliqué. On se foule pas. La terminologie est très simple. On appelle ça Yahrzeit. Yahrzeit, ça veut dire quoi? Littéralement?
Le temps.
L'année. Le temps de l'année.
L'année.
C'est-à-dire, au moins, c'est parvé. Ça ne veut rien dire d'autre que, on va dire, le repère temporel. Alors que si vous allez chez les Sfaradim, eh bien, ça va varier. On va appeler soit une Askara, soit une Iloula. En général, on va parler de Askara pour les proches, les grands-parents, ainsi de suite, et de Iloula pour les grands rabbins. Je ne suis pas d'accord. Pour la raison très simple, que pour moi, il n'y a aucune différence entre rabbin et proche grand-parent. Les deux peuvent bénéficier d'une Askara comme ils peuvent bénéficier d'une Iloula. Et en fait, il va simplement falloir essayer de comprendre quelle est la différence entre les deux pour comprendre quels sont chacun des deux, pour comprendre pourquoi on a besoin des deux. Alors, d'abord, on va faire le plus simple. Askara. Askara vient du mot
L'askir,
l'iskor, se rappeler. Donc la Askara nous rattache au passé. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'une Askara, eh bien, on va se rattacher tout simplement. Voilà, il y a une des élèves de ma femme qui croyait que c'était un cours de course. Eh bien, ça ne l'est pas. Donc, je ne sais pas si elle va rester avec nous ou elle ne va pas rester avec nous. Mais je n'ai pas prévu de faire des exercices physiques pendant notre cours. En tout cas, une Askara, c'est référence au passé. C'est-à-dire, eh bien, je vais regarder ce que la personne m'a légué. Et donc, ben très souvent, dans les Askarot, on va rappeler des histoires, rappeler des événements, rappeler des enseignements. mais du passé. La Hiloula, c'est complètement l'inverse. La Hiloula vient du mot
Halel,
les Halot, Illa. C'est-à-dire que Hiloula, c'est la notion de la Halot, la notion de monter. Mais la question, c'est qui monte? Est-ce qu'on parle du défunt? On aurait plus tendance à dire que justement, sa Neshama, elle descend, pour nous dire un petit coucou. Qui donc monte pendant la Hiloula? C'est moi. C'est-à-dire que la Hiloula, c'est se servir de ce que la personne a légué pour avancer, pour nous élever. Quand vous parlez de la Hiloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la plus connue peut-être, Hiloula de Rashbi, la Baomer, tout ça, eh bien, la Hiloula, c'est parce que grâce à l'enseignement du Zohar, eh bien, on s'élève dans notre quotidien. En d'autres termes, la Askara est tournée vers le passé, alors que la Hiloula est tournée vers l'avenir. Ok ? Maintenant, où est ma place dans tout ça ? Eh bien, ma place, elle est très simple. En vérité, moi qui fais la Askara ou la Hiloula, je suis le témoin. Vous savez, dans une course de relais, il y a le témoin, c'est-à-dire le bâton en bois, et il y a un mec qui court qui va le donner à un autre mec qui va continuer. Eh bien, en fait, le mec qui court avant, c'est la Askara. Le mec qui court après, c'est la Hiloula. Et moi, je suis le témoin au milieu. En d'autres termes, j'ai besoin des deux. Parce que je ne peux pas faire de Hiloula s'il n'y a pas de Askara. Mais une Askara toute seule, je ne vais pas dire que ça ne sert à rien. Mais on a raté le truc. On a raté le truc parce que l'objectif est de grandir. Grâce à la personne qui nous a quittés, l'objectif est de grandir. Donc en fait, c'est regarder en arrière pour construire l'avant. Et c'est ça la notion d'une importance capitale de dire le Kaddish le jour du Yahrzeit. Lama, Makara. Alors on va dire, parce que c'est le moment où, eh bien, on peut faire Nachat à la Neshoumé. Enfin, un peu de Noches à la Neshoumé qui est là-haut. Bon, j'entends bien. Mais vous comprenez bien que la Neshama, elle se porte très bien, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que je fasse Kaddish ou que je ne fasse pas Kaddish, dans le monde des Neshamot, elle est avec ses potes, elle n'a aucun problème. Mais le fait que je dise Kaddish, qu'est-ce que ça veut dire? Mais d'abord, il faudrait peut-être se poser la question, ça veut dire quoi le Kaddish? On en fait toute une histoire du Kaddish. Mais tous les gens qui disent Kaddish, ils ne savent pas ce que ça veut dire le Kaddish. Ils ne savent pas ce que ça représente. Sans rentrer dans le détail de chaque mot. Le début du Kaddish, Yidgadal veYidkadash Shemei Rabba, ça fait référence à un verset du Tanakh. Ça fait référence à un verset du Tanakh dans le livre de Yeheskel, qui nous dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a un objectif. Cet objectif, c'est veYidgadilti veYidkadishti Leine Amim Rabim. C'est-à-dire que le Yidgadal veYidkadash, c'est la reprise du verset. Dieu, il veut grandir et être sanctifié aux yeux des nations, aux yeux du monde. Sauf que par l'intermédiaire de qui il va être sanctifié et il va être grandi, eh bien par l'intermédiaire du peuple juif. Ainsi, le moment où je fais Kaddish pour quelqu'un qui est parti, le moment où je dis Yidgadal veYidkadash Shemei Rabba, eh bien, je suis en train tout simplement de proclamer que la personne qui est partie, elle a tracé un chemin et que j'ai envie de continuer son chemin pour arriver au dévoilement de Dieu. Et pas que pour moi, mais pour le monde entier. Ainsi, le moment où je dis Kaddish, eh bien, je m'inscris moi dans la continuité de cette fameuse charcherette dont on parle tout le temps, de cette chaîne qu'on évoque tout le temps. C'est en fait à cela que sert le kaddish. Alors, quand c'est un kaddish personnel, Yantzai, Taskara, Iloula, ça va me rattacher à la chaîne de ma famille. Mais lorsque je fais kaddish dans la tfila, quand je suis le chazan et que je fais le kaddish, c'est pour me rattacher à la destinée collective du peuple juif, Avraham, Yitzhak, Yaakov, toutes les générations du peuple d'Israël, et les projeter vers toutes les générations futures.
En fait, rien n'empêche les femmes de faire kaddish.
Rien n'empêche les femmes de faire kaddish en tant que telles. Elles n'ont simplement pas le poids dans le minyan.
Donc,
pour que le kaddish puisse être entendu, c'est-à-dire prononcé à voix haute, il faut un minyan. Donc, en fait, ben, en ce moment, par exemple, à Shorashim, il y a une femme qui vient tous les jours faire le kaddish. Elle vient faire le kaddish, elle vient avec son mari, et à Mincha, elle fait kaddish. Je ne sais pas pour qui elle fait kaddish exactement, mais bon, mais jamais. C'est-à-dire, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est habitué à ne pas entendre les femmes faire kaddish, parce que comme kaddish était un sine qua non de, enfin, il fallait un minyan pour pouvoir kaddish, et que, ben, on avait rarement l'occasion de voir des femmes venir tous les jours à la synagogue, et certainement pas Mincha et Arvit en plein milieu de la journée, ben, le kaddish était l'apanage des garçons. Et donc, le mari, en général, il prenait sur lui de faire le kaddish si sa femme, elle avait besoin de dire kaddish. Mais aujourd'hui, eh ben, tu as de plus en plus de femmes, et il ne s'agit pas de réformés, de libéraux ou de quoi que ce soit, qui veulent également dire kaddish. C'est fair enough. Ok ? Donc, il s'agit ici véritablement d'une continuité, d'une transmission. Et donc, comme je dis, il y a une différence entre Yahrzeit, qui est parvé, et Askara et Iloula. Eh bien, je dis que la Askara nous permet d'arriver à la Iloula. Tout simplement. Et, bah, les amis, c'est le propos de notre paracha. Puisque notre paracha va commencer par ce mot Ve'ele Shemot. Mazé Ve'ele Shemot. Ve'ele, eh bien, nous dira le Talmud, à chaque fois qu'on dit Ve'ele, ça rajoute par rapport à ce qui a été dit avant. Et lorsqu'on dit simplement Ele, ça vient annuler ce qu'il y avait avant. Le fait qu'on nous parle de Ve'ele Shemot Bene Israël Abayim Mitzrayma, eh bien, ça montre que l'histoire qui va se jouer maintenant, eh bien, c'est la suite de l'histoire qui s'est jouée avant. Vous allez me dire, bah oui, bah ça va. J'avais pas besoin que tu me dises Ve'ele. Je lis le texte, je vois bien que c'est la suite. Oui, mais l'histoire d'avant était l'histoire des Avot. Bereshit, c'est l'histoire des Avot. Shemot, c'est l'histoire des Banim. Quelle est la différence entre Avot ou Banim? On l'a dit très souvent, donc ça va, vous le savez maintenant. Avot, définition de Avot.
Plus...
Oh, non, j'ai... les amis, hein? On a dépassé ça. Vous n'allez pas me dire que Avot, ça veut dire les papas. Ça, ça c'est quand vous étiez en Ulpan Rama Aleph. Non, les Avot, pas une traduction, mais une définition. Les Avot, c'est ceux qui vivent dans l'espoir de la réalisation d'une promesse que eux ne vont pas se réaliser. Ok ? C'est une définition simple. Avot égale je vis dans l'espoir de la réalisation d'une promesse dont je sais qu'elle ne se réalisera pas de mon vivant. Voilà la définition de Avot. En fait, ce n'est pas la mienne. C'est la définition que nous donne Rashi. Rashi, dans la paracha de la semaine prochaine, va nous dire Vaera el Avraham el Yitzhak ve'el Yaakov be'el Shaddai Ushmi Hashem lo nodat ilahem. Rashi nous dit c'est qui Avraham Yitzhak ve'Yaakov? C'est Avot. Todarabah Rashi, on avait besoin de toi. Non, en fait, il nous explique qu'ils ont accepté les trois d'être Avot, à savoir ceux à qui se dévoile El Shaddai. Et il continue d'expliquer que El Shaddai, c'est celui qui fait des promesses, mais qui ne les réalise pas encore. Hachem, Yudke Vavke, c'est celui qui réalise les promesses. En d'autres termes, ceux qui, comme Abraham, Yitzhak et Yaakov, ont reçu de la part de Dieu une promesse qu'il allait avoir le peuple juif et que ce peuple juif allait hériter de la terre d'Israël, eh bien, ce sont des avots. Ceux qui vont sortir d'Égypte pour hériter de la terre d'Israël, ce sont les banim. Ce sont ceux qui réalisent des promesses, ce sont ceux qui dévoilent Dieu par l'intermédiaire de Yudke Vavke. En d'autres termes, eh bien, quand tu es avot, quand tu as des avot, eh bien, tu peux arriver à des banim. Ve'ele Shemot Bene Israël, eh bien, ça fait ce qu'on dit maintenant est rattaché à ce qu'on disait avant. Bon Bereshit, c'est l'histoire des avot. Nous sommes les banim et nous sommes les banim parce que nous sommes reliés au avot. Bon, une fois qu'on a dit ça, tout va bien. Mais le problème, c'est que, eh bien, nous ne ressemblons plus du tout à nos avot. Eh oui, les avot ont vécu le moment de la promesse, mais entre le moment de la promesse et la réalisation, eh bien, il s'est passé pour eux 210 ans d'Égypte, pour nous 2000 ans d'exil. Ce qui fait que ceux à qui on a promis la Géoula, eh bien, ne ressemblent plus du tout à ceux qui vont vivre la Géoula. Parce que ceux qui vont la vivre, eh bien, sont les résidus de l'exil. Résultat des courses, eh bien, nous n'arrivons plus à parler le même langage. On a beaucoup de mal à parler le même langage parce qu'on regarde nos avot et on se dit, mais enfin, ils ne sont pas comme nous. Les avot, en fait, il y a avot aleph et avot bet. Prenons un exemple très concret. Il y a Avraham, Yitzhak, Yaakov, et puis il y a, je ne sais pas, la génération de 100 ans après Yaakov, c'est-à-dire 100 ans avant Moshe. Ils sont en Égypte, ces mecs-là, mais ils n'ont plus rien à voir avec Avraham, Yitzhak, Yaakov. Ils n'ont rien à voir non plus avec la génération de Moshe. Le Mashiach est la réincarnation qui, cher Rav. Ah, le Mashiach est la réincarnation de qui, cher Rav? C'est une très bonne question, mais pourquoi vous voulez qu'il soit Dafka la réincarnation de quelqu'un? Il ne peut pas être pas la réincarnation de quelqu'un? Il ne peut pas faire son boulot, tout simplement? Ok? Pour ce qui est de Mashiach ben Yosef, eh bien, on nous dit de plein de gens qu'ils sont Prinat Mashiach ben Yosef, qu'ils ont les qualités qu'on attend de Mashiach ben Yosef. Ça ne veut pas dire que c'est à chaque fois réincarnation d'eux. Bekitzur, donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que les avot et les banim ne se ressemblent pas. Et donc, on a beaucoup de mal à faire le trait d'union. Parce que les avot, puisqu'ils vivaient la promesse, eh bien, ils se sont accrochés à la promesse. Mais s'accrocher à la promesse, c'était parce qu'ils ne pouvaient pas s'accrocher à autre chose. Puisque si on a bien compris, les avot, ben, sont ceux qui vivent pendant l'exil. Les banim sont ceux qui vivent la résurrection. Oui, mais un juif pendant l'exil, ça ressemble à quoi? Ben, ça ressemble à un rabbin. Demandez à n'importe quel non-juif, un petit peu antisémite sur les bords, et qui s'est plus ou moins bien caricaturé et dessiné, et demande-lui de vous dessiner un juif. Bon, il y en a un, il a demandé de dessiner un mouton et il a dessiné une boîte. Mais si tu demandes à un bon juif, frisant d'antisémitisme, tu lui demandes de te dessiner un juif, au-delà du gros nez, qu'est-ce qu'il va dessiner?
Une barbe et
un chapeau. Ben voilà, un cousin à Rabbi Jacob. Ben oui! Parce que dans la conscience collective, tant du peuple juif que des nations, un juif, c'est un rabbin. Ah, si ce n'est pas un rabbin, il est copain avec le rabbin. D'ailleurs, vous savez bien comment les musulmans nous ont appelés.
Les Doumis.
Non, ça, ce n'était pas notre nom, c'était notre statut.
Yehoud ?
Alors non, Yehoud, c'est beaucoup plus récent. C'est à partir du moment où ils ont commencé à nous mépriser. Mais il faut savoir que les musulmans n'ont pas toujours méprisé les juifs. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient leurs meilleurs copains, mais ils n'ont pas forcément méprisé. Il y avait un titre honorifique qui était donné au peuple juif. C'était, et je m'excuse pour mon accent arabe à couper au couteau, c'était « Amal Kitab ». Ce qui veut dire, en bon yiddish, « le peuple du livre ». Ama Sefer. Ok ? Amal Kitab. Bon, Josie, c'est le moment où tu dois me dire que j'ai mal prononcé et que tu prononces mieux, toi.
Non, tu ne prononces pas du tout bien.
Alors, vas-y, dis-moi.
Je ne comprends pas du tout le terme.
Ah, ben voilà, ça va être de ma faute maintenant. Ah là là.
Ah, c'est le peuple, hein.
Oui, et comment on dit un livre ? Ouais, bah alors on parle pas le même arabe alors.
Non, moi je connais pas ton arabe à toi.
Bah attends, moi j'ai appris l'arabe en Pologne. Écoute, enfin.
Mais en arabe, un livre c'est Sadour.
Bon, bah alors l'arabe de la Tunisie et l'arabe de la péninsule arabique, c'est pas le même.
C'est pas le même, c'est sûr.
Alors,
c'est
en plus, c'est vrai. Bekitsour, le peuple du livre. Pourquoi ? Pourquoi le peuple du livre ? Parce qu'on se baladait toujours avec des livres. On se baladait toujours avec des livres. Donc,
un rapport avec la Torah ?
Ça ne peut pas être un rapport avec la Torah. Parce que pour eux, on l'a falsifié, la Torah.
La Bible, non ?
Non, mais ça ne peut pas être en rapport avec la Bible. Parce que, d'après eux, on a falsifié la Bible. Puisque la vraie Bible, c'est le Coran. Donc, ça ne peut pas être... Un éloge de dire qu'on est ceux qui ont falsifié. Mais, comme on nous voyait tout le temps avec des bouquins à la main, ben on est devenu le peuple du livre. Maintenant, c'est qui avait les bouquins à la main ? C'était les rabbins.
Ah, ça y est.
Donc, comment ça, non ?
Oh !
Quoi ?
Ethan ?
Oui ? Quoi ?
Il est là, Ethan. T'avais disparu.
T'es revenu. Je suis revenu. Je dis, les seuls qui avaient des bouquins, c'était des rabbins. Donc, eh bien, en exil, nous sommes un rabbin. Un rabbin, c'est bien, hein ? J'en connais des gens très bien, des rabbins. Mais attention, quand je dis rabbin, c'est toute la panoplie du rabbin. C'est-à-dire, eh bien, Azov, la barbe, le chapeau, tout ça, ça c'est des blagues. Mais la panoplie du rabbin, c'est quoi ? C'est qu'il vit dans un monde théorique et que le monde physique se limite au mur du Beth Amidrash. Car l'extérieur, c'est le Géhinnom.
Il y a quand même une vie extérieure.
Non,
chez les plus grands rabbins.
Chas Veshulem. La vie extérieure, c'est le Géhinnom. C'est l'enfer sur terre. Alors effectivement, il faut quand même que j'aille au travail, il faut quand même que j'aille un peu de parnoussé, tout ça. Mais ce n'est pas la vie, ça. Ça c'est parce qu'on n'a pas le choix. C'est l'idéologie dans laquelle on s'est retrouvé pendant près de 2000 ans. Est-ce que tu as déjà entendu un rabbin, il y a 1000 ans, parler en disant qu'il y avait une valeur intrinsèque à aller travailler ? Non, il faut aller travailler parce que sinon tu ne peux pas manger. Mais ce n'est pas du tout quelque chose d'important en soi. Ainsi, il y a dans les Sichot de l'Ikoutei Moharan de Rabbi Nachman de Breslav, il dit qu'il a entendu un jour deux juifs se disputer sur la notion de Olam Hazeh et Olam Haba. Et il a dit qu'il fallait une émouna très forte pour penser qu'il y avait Olam Hazeh. Il faut vraiment faire preuve d'une grande émouna pour croire dans le Olam Hazeh. Il dit Olam Haba, il n'y a pas de doute qu'il y a. Parce que nos sages dans le Talmud, ils ont dit Kol Israël Eshlem Chelek l'Olam Haba. Donc il a dit Olam Haba, c'est sûr qu'il y a. Mais dire que ça existe Olam Hazeh, il faut une grande émouna. Parce que ce qu'il y a dehors là, c'est un Géhinnom. C'est-à-dire, trouver un monde dans lequel il y a, eh bien, j'ai envie de dire, une vie normale, où il n'y a pas la persécution constante, où il n'y a pas la volonté constante de te faire oublier qui tu es, et ainsi de suite, eh bien ça, pendant l'exil, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et donc, on a créé de toutes pièces deux sortes de ghettos. On a créé d'abord un ghetto matériel, et je ne parle pas du tout de la Shoah. Je vous rappelle, 1500, si je ne me trompe pas, 15 ou 17, le premier ghetto à Venise. Eh oui, le ghetto, c'était le nom du quartier avant que les Juifs ils appellent ça un ghetto. Le ghetto. C'est-à-dire, on s'enferme pour être protégé. À la dire vrai, vous avez bien compris que le premier ghetto, il n'était pas à Venise. Le premier ghetto, il était à Goshen. Là où Yosef nous a mis pour être bien à l'écart des Égyptiens. Donc ça, c'est le ghetto physique. Mais nous créons également un ghetto spirituel et mental. C'est-à-dire que nous nous mettons des barrières pour nous dire « là, on a le droit d'aller et là, on n'a pas le droit d'aller ». Et pour que vous compreniez bien cela, je voudrais qu'on étudie ensemble et vous allez voir à quel point c'est totalement notre paracha. C'est la raison pour laquelle les Bnei Israël, ils n'arrivent pas à accepter Moshe. Parce que dans notre paracha, les Bnei Israël, ils n'acceptent pas Moshe au début. Et donc, je voudrais vous lire un tout petit passage. Mais comme d'habitude, eh bien, j'ai laissé le livre sur l'autre table, donc deux secondes. Voilà. Donc, je voudrais voir avec vous, étudier avec vous un petit passage du Rav Kook dans le livre Oroth, dans la partie Oroth à Techia, chapitre 15. Nous dit le Rav Kook la chose suivante. Alors, je vais lire, traduire et essayer d'expliquer. Que chez Koach Israël Gadol, Venishmato Meira Bekirbo, Beofa, Veanafa, Vamaasim, Metukanim, lorsque Israël est fort et grand, que son âme éclaire son comportement au quotidien, que ses actions sont en adéquation avec l'idéal du peuple juif, Besidur Malé, Bekdusha, Beyichud ou Bivracha, lorsque nous dévoilons tant la Beracha d'Akadosh Baruch Hu et la Kedusha, la sainteté, Bemikdash ou Memshala, lorsque nous avons le Bet Amikdash, que nous avons un état, une souveraineté, Benevoa Vechochma, lorsque nous avons la prophétie et la sagesse. Donc, autant te dire qu'on parle d'un idéal quand même pas mal. On n'y est pas. Nous dit le Rav Kook, ça c'est l'idéal. À ce moment-là, Az a itrachavut letzad achol, le fait à ce moment-là de s'élargir, de grandir, de s'étaler également vers le côté du chol, El innuge achushim aruchanim vagashmim, de kiffer tant, de chercher le kiff spirituel et le kiff matériel, le atsatsa chadira penimit le toch chayem shelamon eamim leumim veshonim, c'est-à-dire que nous avons également un intérêt très, très poussé à aller voir ce qui se passe chez les autres nations, chez les autres peuples, qu'est-ce qu'ils ont à dire, les Mifaléem, de voir leurs agissements dans le monde, Sifriotéem, de voir également leur bibliothèque, c'est-à-dire les écrits de leurs sages à eux, Itgabrut Ozachaim Ativim, le fait que notre vie naturelle retrouve toute sa place, Kol Ele Tovim Hem, ou Mesugalim La Rivet Oratov. Et donc, tout ça, c'est bien, et ça nous permet d'agrandir la capacité qu'on a d'être tov, de dévoiler à Kadosh Baruch. Ça, c'est l'idéal. Pourquoi méritons-nous la délivrance finale d'un jour avec tous les péchés de notre peuple et des nations du monde? Eh bien, je vais tout de suite répondre à cela. Il y a une phrase en hébreu qui dit la chose suivante. Attention, tenez-vous bien. Ein baal gan Makir Babalagan. Je répète. Ein Baal Hagan, Makir Babalagan. Ce qui veut dire, littéralement, mais le jeu de mots n'existe plus, le propriétaire, le patron du Gan n'arrive pas à voir le désordre qu'il y a dans le Gan. Bien, je t'explique autrement. Quand on est à l'intérieur d'un événement, on a toujours du mal à voir objectivement ce qui se passe dans cet événement. Votre question... Quoi, je suis plus là ?
Rien. Non, t'as disparu,
je suis revenu.
Je crois que c'est... Je crois que c'est toi qui as un problème.
Il y a que Émile qui a... C'est Émile qui
nous... Le problème, quand je ne te vois pas.
Et voilà, c'est ça. Alors, non, pourquoi je dis « En balagan, makir babalagan » Eh bien, parce qu'ici, il y a une personne qui pose la question, elle dit « Comment méritons la Géoula de nos jours alors que nous faisons tellement de péchés ?» Mais, alors d'abord, non. Non, c'est pas vrai. On fait pas autant de péchés que vous dites. C'est pas vrai. Notre génération, que ce soit le peuple juif ou le monde entier, eh bien, a énormément évolué et dans le bon sens au niveau de la morale, au niveau de la justice, au niveau de l'acceptation de l'autre. Je ne dis pas que nous sommes arrivés au top. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des choses à améliorer. Mais je vous en prie, ayez un regard un tout petit peu objectif et historique, parce que je peux vous assurer que ce qui se passe il y a 1000 ans, c'est quand même sacrément plus violent que ce qui se passe aujourd'hui. Et au niveau du peuple juif, c'est pareil. À Israël, on est des tzadikim aujourd'hui comparé à ce qu'on était avant. Mais ça veut dire, je rappelle qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne font pas Shabbat. Bon, c'est pas bien, moi je suis pour Shabbat. Mais je te rappelle qu'il y a 2000 ans, les mecs, ils sacrifiaient leurs enfants à des divinités extérieures. C'est quand même autre chose de ne pas faire Shabbat. Ça veut dire ? Donc, on a évolué et dans le bon sens. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas des choses à améliorer ? Bien sûr qu'il y a des choses à améliorer. Mais il faut arrêter de tout le temps penser qu'on est la pire génération de l'univers. C'est faux. C'est-à-dire, il y a des problèmes, mais dans la balance générale, on est beaucoup mieux que pas bien. C'est-à-dire ? Donc, ben je reviens à mon texte. Nous dit le Rav Kook donc que lorsqu'on est de manière complètement idéale, eh bien, il faut être complètement dans tous les domaines de la vie. Il faut s'intéresser à la littérature, il faut s'intéresser à l'architecture, à la science, il faut s'intéresser à tout ça parce que tout ça te permet eh bien, de dévoiler Dieu comme il se doit. Seulement nous dit le Rav Kook, oui mais attention, je continue donc dans le texte, il nous dit « Miché Hachach Haor » depuis que la lumière s'est éteinte. « Miché Galta Shrina » depuis que la présence divine est partie en Tioul. Mishene et Kour Aglea Uma mi Betraya, depuis que le Ham Israël a quitté la terre d'Israël, donc depuis l'exil en fait. Echel Atzimtzum Liot Nitba. Nous avons été obligés de nous rétrécir. Nous avons été obligés de nous rétrécir. Kol Oz Chiloni. À ce moment-là, pendant l'exil, toute force du monde du Chol, donc Kol Oz Chiloni, Alun Liot Leroetz, risque de nous faire tomber. En vérité, ce n'est pas très compliqué. Pendant l'exil, un mec qui a abandonné deux secondes le rabbin et qui allait voir ce qui se passe dans la grande ville, ben, je pense que ce n'est pas à vous que je vais apprendre ce qu'est le film « Un violon sur le toit ». Ni la pièce de théâtre non plus. Vous vous rappelez de cette scène où il y a la chanson Tradition. Et je ne vais pas vous faire l'affront de la rechanter. Tradition. Hein, Tradition. T'as la première fille qui, Rachmana Litzlan, va voy Gevald Zmir. Elle se marie avec le garçon qui a un bon parti, qui a un Yeshiva Bucher Chamoud. Bon, il travaille dans les shtetl, mais il est Chamoud, Yereshamaim, et qu'on connaît depuis toujours. Sauf que ça ne s'est pas fait comme il fallait faire. Normalement, il fallait faire un shédir. La deuxième sœur, elle a trouvé un autre garçon. Bon, il est encore juif, tu me diras. Mais ce n'est plus vraiment le bachour du shtetl qui est Yereshamaim. Et la troisième sœur, puisqu'elle est partie dans la grande ville, elle a aussi trouvé un goy. Plus tu sors des murs du ghetto, plus c'est dangereux durant l'exil. Et je répète, durant l'exil. Et à ce moment-là, pendant l'exil, kol yofi tivi vecheshko alul lehafil et haor hakadosh vetam hatahara vehatzeniut. Dans l'exil, quand tu recherches à être beau extérieurement, c'est-à-dire de mettre en avant le côté du corps, eh bien, ça va te faire descendre dans toutes les dimensions possibles et imaginables. Et à ce moment-là, nous dit le Rav Kook, dans cette condition d'exil profond, kol marshava shelo nitgadela kula bemachane Israël yechola laharos et seder haemuna vehachaim haYisraelim, toute pensée, tout idéal qui n'a pas grandi au sein du peuple juif risque d'ébranler la Emouna. Je ne sais pas si vous voulez que je vous donne des exemples. On peut parler des nouvelles découvertes scientifiques de la Renaissance. On peut parler du panthéisme de Spinoza. On peut parler, du marxisme. On peut parler et d'autres, j'en passe si infinité. Bekitsour, voilà la situation de l'exil face à la situation idéale qu'on a dépeinte tout à l'heure. Mais le Rav Kook nous dit Aval, Aval, lorsque la Géoula commence, Atroum, Akatsar, Bagalout, Oler, Hu, ou Mitrachev, Kemidat, Yeshuatan, Shel Israël, Sholechet, Veora, Kim'a, Kim'a. Dit le Rav Kook, pendant l'exil, rapetissez. Pendant l'état d'idéal, aussi grande possible. Lorsqu'on passe de l'un à l'autre, eh bien, on recommence à tout simplement redonner de l'importance petit à petit à tous les événements, à tous les éléments du chol, à tous les éléments du monde. Les amis, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que lorsque la génération des Banim commence à vouloir prendre sa place, et qui a donc envie de retrouver pas seulement le Beth Amidrash, mais de sortir à l'extérieur du Beth Amidrash, il regarde les Avot et se dit « Zélo chéri, c'est vieux le Beth Amidrash, moi je vais sortir. » Et les Banim ne comprennent plus les Avot. Et les Avot sont déçus des Banim. Parce qu'ils se disent, ils ne continuent pas du tout ce que moi, j'ai donné. Et donc, il semble que la chaîne se brise. Il semble que le témoin ne passe pas. À ce moment-là, on a besoin de quelqu'un pour venir dire, mais non, t'as pas compris. Ils ne parlent juste pas le même langage, mais en fait, ils disent la même chose. Tu disais tout à l'heure que c'était la Hiloula de Ben Yehuda. D'accord ? Eliezer Ben Yehuda. Si on devait donner un titre au personnage, comment tu le définirais ?
Plutôt Hiloula, bien sûr.
Non, non, pas ça. Oui, mais je veux dire, il y a quelqu'un qui ne connaît pas Eliezer Ben Yehuda. Il dit, c'est qui ? Eliezer Ben Yehuda, en une demi-phrase, tu dirais quoi?
La renaissance l'hébreu. La renaissance de l'hébreu.
Il y a fait. La renaissance de l'hébreu. Tu veux que je te dise un vrai secret? Il n'y a pas de plus grand mensonge que celui-là. Mais attention, c'est un double mensonge. Mêlé d'un idéal. Je t'explique. D'abord, c'est un mensonge parce que pendant 2000 ans, les rabbins, ils ont toujours parlé en hébreu.
C'est vrai ?
Donc, il n'y avait pas besoin de renaissance. Il n'y avait pas besoin de renaissance. Elle était toujours là. Oui. Seulement, elle était dans les livres de Torah. Il n'y avait qu'à aller regarder là-bas pour apprendre l'hébreu. Mais, c'est quoi ? Disons que ça ne pouvait pas parler à une nouvelle génération qui s'était éloignée de la Torah. Donc, c'est le premier mensonge, mais c'est un petit mensonge. C'est un mensonge ou né. De dire que Eliezer ben Yehuda est celui qui a ressuscité pour le peuple juif et pas les rabbins, la langue hébraïque, c'est un mensonge terrible, mais qui est tout à fait expliqué par le mythe...
La langue parlée.
Pardon ?
La langue parlée.
Non, non, mais même la langue parlée, c'est un mensonge. Mais c'est un mensonge qui s'explique lorsqu'on veut créer un mythe fondateur. N'oubliez pas que ceux qui sont à la tête de la renaissance du peuple juif sur sa terre sont des gens qui ne sont pas vraiment avec des kippotes sur la tête. Et donc, évidemment que la renaissance de l'hébreu, comme étant la langue nationale, est un domaine très important, tu m'étonnes qu'il faut que son porte-parole ne soit pas avec une kippa sur la tête. Nahon, ça paraît quelque chose d'assez évident. Seulement, si on veut être un tout petit peu juste au niveau de l'histoire, c'est vrai que Eliezer ben Yehuda va énormément travailler à ressusciter la langue hébraïque. Aval.
Je dirais que c'est l'adaptation.
Deux secondes. Aval. Je voudrais vous poser une question, mes yeux d'âme. Si jamais, prenez un organisme, quel qu'il soit, je sais pas, un organisme que vous connaissez bien, vous connaissez un organisme bien ? N'importe lequel. Comment tu dis ?
Bitoire
Léomi. Ouais, d'accord, Bitoire Léomi. Non, viens, on va faire. Tu sais quoi ? Allez, Josie, c'est pour toi. Le cœur des mamans. Tu connais le cœur des mamans ?
Oui.
Voilà, je crois que tu connais quelqu'un d'assez proche de toi qui s'intéresse un petit peu à cette organisation.
Tout à fait.
Voilà. Maintenant, dis-moi. Il y a plein de bénévoles dans l'organisation.
Tout à fait.
Si je prends maintenant le nom d'un des bénévoles, est-ce que c'est elle, le cœur des mamans ?
Non.
Non. Et si je prends, je ne sais pas qui est la fondatrice du cœur des mamans, est-ce que c'est Bémet Sabrina ou...
C'est Agnès.
Maintenant, la numéro 3 de l'organisation, ce n'est pas elle qui a porté l'organisation.
Mais c'est un ensemble.
On est d'accord. Mais il y a quelqu'un qui a lancé le truc et qui s'est entouré de gens qui vont l'aider. Je ne dis pas que les gens qui vont aider ne sont pas importants. Mais tu ne peux pas donner à celui qui est venu pour aider le titre de « c'est moi qui suis l'organisation ».
Tout à fait.
Je vous dis tout ça parce que Eliezer ben Yehuda, effectivement, va ressusciter la langue hébraïque. Aval, et je vous dis... Là, encore une fois, d'attendre deux secondes. Hop là, où il est. Eliezer ben Yehuda, ah oui, était un pilier pour la résurrection de la langue hébraïque. Aval, celui qui est le patron de ben Yehuda, qui va l'embaucher, qui va lui dire de se mettre au travail, parce que c'est lui qui va commencer, en vérité, ben, tout le mif'al, eh bien, c'est lui.
Oui, un rabbin ?
Pas n'importe quel rabbin, c'est le Rav Yaakov Meir, le premier Rishon Letzion, le premier grand rabbin d'Israël, Sépharad, en 1921, lorsqu'on va construire la... Non, en 1921, on va construire le grand rabbinat d'Israël. Il sera... le premier grand rabbin d'Israël, Sépharad, aux côtés du Rav Kook. Le Rav Kook sera le premier grand rabbin Ashkenaz, et lui sera le premier grand rabbin Sépharad. Eh bien, les amis, Arav Yaakov Meir, c'est lui qui va lancer l'organisation, qui va devenir plus tard, il va changer de nom, ça va devenir Academia Lelashon Haivri. C'est lui qui a embauché Eliezer ben Yehuda. Mais sauf qu'avant d'embaucher Ben Yehuda, c'est lui qui qui se balade de communauté en Israël et qui réapprend à tout le monde à parler en hébreu.
Pourtant, Eliezer ben Yehuda, c'est pas lui qui voulait que ses enfants parlent en hébreu.
Tout à fait, tout à fait.
Il a créé des nouveaux mots.
Mais
c'est lui qui a créé des nouveaux mots.
Eliezer ben Yehuda, il va énormément avoir de l'influence, il va créer le dictionnaire, tout ce que tu veux, tout ce que tu dis est vrai. Mais c'est pas lui qui est l'instigateur. C'est pas lui qui a lancé le mouvement. Celui qui a lancé le mouvement, c'est celui qui l'a embauché, qui s'appelle Arav Yaakov Meir. Donc, en vérité, la résurrection de la langue hébraïque, ça parle à n'importe quel juif moderne. Quand tu dis rabbin, t'as l'impression que non, ça ne me parle pas. Mais là, je viens de te dire, mais en fait, celui qui a donné l'idée de faire de la langue hébraïque, pas seulement une langue rabbinique, mais une langue que tout le monde devait recommencer à parler en Israël, c'était un rabbin. Et c'est de cela qu'on parle. Le rôle de celui qui porte le témoin, c'est d'être capable de faire le lien entre la Haskara et la Hiloula. C'est-à-dire de faire le lien entre les Avot et les Banim. De montrer que bien qu'il s'agisse d'un langage différent, en fait, on dit la même chose. Et que oui, celui qui a enlevé sa kippa et qui est prêt à donner sa vie pour sauver Israël dans des guerres et en milouim et en ce que tu veux, eh bien, il ne fait que réaliser ce que les rabbins, pendant 2000 ans, ils avaient dit, mais de manière purement théorique. Alors, ça ne veut pas dire que les rabbins, ils ont dit qu'il fallait enlever la kippa et qu'il fallait arrêter de manger kasher. Non, pas du tout. Là aussi, il faudra trouver le moyen de montrer comment est-ce que la kashrout, le shabbat, eh bien, ça lui parle également à lui. Tu veux que je te donne un tips ? Je vais te donner une idée de comment on peut faire. J'ai guidé une fois un groupe de personnes extrêmement à gauche. Des Israéliens, mais une organisation de gauche-gauche. J'ai demandé pourquoi c'est moi qu'on avait appelé pour guider cette organisation. Ils m'ont dit qu'ils ont demandé le plus extrémiste à droite que l'agent de voyage connaissait. C'est tombé sur moi, je ne sais pas pourquoi.
On se demande.
Ben, je ne comprends pas. Franchement, c'est un procès d'intention terrible. Alors, ils m'ont dit, je me rappelle même plus comment la discussion elle a commencé, mais ils m'ont dit, Ata rotze medinat halakha. Toi, tu veux un État qui ne vit que sur la halakha. Je dis non, moi je veux un État démocratique. Elle dit non, c'est pas vrai. Toi, tu veux qu'on fasse tous Shabbat. J'ai dit oui, j'aimerais beaucoup que tu fasses Shabbat, mais que ce soit démocratique. C'est-à-dire, je suis pour qu'il y ait une Medinat Halakha, à la condition que bah, c'est la loi du pays. Et la loi, elle est décidée par la majorité des représentants du peuple. C'est ce qu'on appelle les députés à la Knesset. Si demain, il y a une majorité de députés qui votent pour des lois religieuses, eh bien, ça voudra tout simplement dire que la majorité des juifs, ils ont élu une majorité de députés qui veulent des lois comme ça. Donc, je suis pour la démographie et la démocratie. Alors, ils ne savaient pas trop où se passer. Et j'aurais dit, mais vous savez, si vous êtes tel, parce qu'ils me disent, non, nous, on veut la religion, la Torah, c'est pour les synagogues, mais que ça ne vienne certainement pas sur les plates-bandes de la politique et de la vie au quotidien. J'ai dit, mais moi, j'entends ce que vous dites. Et pourtant, vous n'êtes pas en accord avec vos paroles. Il me dit, comment ça ? Au contraire, c'est vous, les religieux, qui êtes très souvent en désaccord dans les faits, entre les actes et les paroles. Je dis, je ne sais pas les religieux, mais je vais vous poser une question. Vous savez qu'il y a une loi à la Knesset, c'est une loi de l'État d'Israël, qui fait que la langue officielle de l'État, c'est l'hébreu. Ils disent, oui, évidemment, c'est la langue nationale. Je dis, d'accord. Vous savez qu'il y a aussi une loi à la Knesset, une loi de l'État d'Israël, qui oblige les enfants à aller à l'école. Elle me dit, évidemment. Il dit, vous savez que dans la loi, eh bien, l'école est obligée d'enseigner l'hébreu. En Israël, je parle. Ça fait partie de l'imoudé al-liba. Tu es obligé d'enseigner l'hébreu. Et ils me disent, évidemment.
L'hébreu, Et pas seulement enseigner l'hébreu, il faut aussi qu'ils connaissent la Torah.
Ah non, non, non. Il n'y a pas de loi qui oblige d'enseigner la Torah. C'est pas vrai.
Ah bon?
Mais il y a une loi qui oblige d'enseigner l'hébreu. Comme il y a une loi qui oblige d'enseigner les mathématiques. Mais si tu ne veux pas enseigner la Torah dans une école publique, tu peux ne pas enseigner la Torah. Tu dois avoir une matière qui fait référence à l'histoire juive. Ça peut être la Torah, ça peut être l'histoire juive, mais ce n'est pas forcément la Torah. Par contre, tu es obligé d'apprendre l'hébreu. Bon, ils m'ont dit, bah, évidemment, mais quel est le problème? Je dis, mais aucun problème. Il faut juste savoir que lorsque les enfants ils vont apprendre l'hébreu, ils font une mitzvah. Et comment ça, une mitzvah? Eh oui. Parler hébreu, regardez dans le livre des mitzvot du Rambam, c'est une mitzvah. Comment ça, c'est une mitzvah? Ben oui. Parce que le judaïsme n'est pas une religion de synagogue, mais c'est tout simplement le code de la vie du peuple juif sur sa terre. Donc parler hébreu, c'est être religieux. Habiter en Israël, c'est faire une mitzvah. Il ne savait pas où se mettre. Parce que tout d'un coup, le mur qui séparait le Chiloni du Dati ben, n'existait plus. Et c'est de cela qu'on parle. Ve'ele Shemot Bene Israël Abaim Mitzrayma. Faire le lien entre les pères et les enfants qui sont en train de réaliser la promesse. On ne parle pas le même langage, on n'est pas habillé pareil, nous n'avons pas le même rapport avec le monde extérieur, et pourtant, nous traduisons le même idéal. Il ne tient que à nous, eh bien, de savoir faire justement la connexion entre la Askara du passé et la Hiloula de l'avenir. Voilà les amis, Chazak Ubaro, Shabbat Shalom. Veseger Sameach Lekulam.
Très intéressant comme d'habitude.
Chazak Ubaro.
Merci.
Merci beaucoup.